On est de retour. Nico Saint-Pierre, descripteur francophone des sénateurs au 94.5 unique. Zachary Mercier, journaliste sportif de Le Droit. On a les deux avec nous en même temps pour nous parler de l'adversaire du Canadien de Montréal, les sénateurs d'Ottawa. Messieurs, comment allez-vous?
Oh, super bien, merci, toi?
Super
excellent.
Bien.
Excellent, merci beaucoup. Nico, on va commencer avec toi. Hier, Brady Tkachuk et Linus Ullmark n'étaient pas dans l'entraînement. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur leur état de santé?
C'est bouche cousue pour ce qui est des développements, mais je vais vous dire une chose, c'est que ça va prendre encore une fois un bras arraché pour que Brady Tkachuk ne soit pas de l'alignement. Linus Ullmark, il n'y a rien d'inquiétant. Puis d'ailleurs, le coach a dit qu'il s'attendait à voir ces joueurs-là sur la glace. Peut-être le point d'interrogation, c'est Nick Jansen, là, lui qui a été blessé récemment. Là. Alors, pour l'instant, aucunement inquiet à savoir si le capitaine et le gardien numéro un seront de la partie ce soir.
Zach, qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de Brady Tkachuk depuis le retour du tournoi des Quatre Nations? Parce que on sait évidemment que c'est durant ce tournoi-là qu'il s'est blessé, là.
Oui, exactement. Mais depuis son retour, pris quelques jours de congé, a raté les premiers matchs en revenant de la pause. Mais vraiment, depuis qu'il est de retour dans l'alignement, il n'a pas l'air de joueur très, très blessé. Là. Oui, il a assurément quelques petits bobos ici et là, mais ça reste que sur la patinoire, lorsqu'il met la switch on, là, c'est un des joueurs les plus difficiles à arrêter. La protection de rondelle depuis son retour, son intensité, sa fougue dans les yeux. Écoute, c'est beau avoir un style de Brady Tkachuk. Puis ça passe pas souvent dans la Ligue nationale. Puis c'est le genre de joueur que tu veux qui amène ton équipe en série. Puis c'est ce qui fait présentement les leaders de cette formation-là.
Nico, on parlait de cette séquence de victoires des sénateurs d'Ottawa. 6 victoires de suite. Puis ils ont battu toutes les équipes Original Six durant cette séquence-là. Est-ce que... Parle-nous de l'ambiance autour de cette équipe-là, parce que nous, ici à Montréal, de l'extérieur, on a comme impression que c'est une équipe des sénateurs qui est en mission. Jamais on les a vus croire autant qu'ils croient en ce moment. J'imagine que c'est bel et bien le cas.
Ouais, t'as parfaitement raison de penser ça. Je pense qu'en ce moment, dans le vestiaire, on n'y croit plus jamais. Puis encore, la première personne à qui je pense... Quand on est à la porte des séries comme ça, c'est Thomas Chabot qui a tout vécu, de la démolition totale. Il ne restait pas grand-chose dans le vestiaire à maintenant l'équipe qui a atteint son apogée à ce moment-là. Mais de bons noyaux de leaders, puis des bons vétérans autour. À l'extérieur, l'ambiance a atteint un paroxysme. Ça fait longtemps, On a marché en telle ébullition, les chants qu'on a entendus dans le match, le dernier match à la maison, avant le départ de la formation, c'était « We want playoffs ». L'équipe est là, l'équipe est en liesse, les spectateurs en veulent évidemment. Alors, je pense que plus que jamais, là, on y croit, puis on a cette ambiance de série-là. Alors, déjà que l'équipe est en mode série depuis un bon bout de temps, je peux vous dire que progressivement, là, le marché aussi se met en mode série.
Zach, ici à Montréal, on parle beaucoup de Dane Hudson, évidemment, là, joueur recru. Là. Il n'est pas un recru, mais Jake Sanderson, il est pas mal jeune. Là. Il a juste 22 ans, là. Il est en troisième année dans la Ligue nationale. Là. Il a déjà 39 passes, lui, cette saison, qui a eu 28 passes l'année passée et l'année avant ça. Il a 46 points en 65 matchs. Lui aussi, c'est un très bon défenseur offensif. Parle-nous de qu'est-ce que lui amène à la partie noire, là.
Il amène de tout. Sincèrement, il est capable de tout faire. C'est pas nécessairement un prototype de simplement un défenseur ultra-offensif que la défensive laisse à désirer. C'est un défenseur qui fait tout. Un excellent coup de patin, une excellente mobilité, une bonne charpente, capable d'apporter un certain aspect offensif. Défend très bien aussi, complète toute une paire avec justement Artem Zub à la défensive. Ce duo-là, avec lorsqu'on a les deux, le quatuor avec Thomas Chabot, et Nick Jensen, puis ensuite Artem Zub et Jake Sanderson. C'est tout un quatuor, mais c'est vraiment lui qui est le meneur à cette défensive-là. A montré un peu à tout le monde de quel bois il se chauffait lors de la confrontation des Quatre Nations. Il est entré un peu là, comme le défenseur d'extra, a réussi à rentrer dans la formation en raison de certaines blessures. Mais depuis, écoute, je pense qu'il fait écarquiller bien des yeux. Puis depuis son retour, un peu comme un Brady Tkachuk, on s'est senti un peu galvanisé par ça. Puis présentement, ben, il joue du très gros hockey. Puis c'est un défenseur, le prototype. Ça va être un défenseur numéro un de cette franchise-là pour encore bien, bien longtemps.
Nico, prochainement récipiendaire du Norris.
Oui.
Probablement, oui.
Ah, oui. Oh, big time. D'ici les trois, maximum 4 prochaines années. Je dirais dans les 3 prochaines années, le Norris va aller à Jake Sanderson.
Mais je suis curieux de savoir, là, pour les gens d'Ottawa, des gens comme vous, qu'est-ce que vous, de l'extérieur, pensez de Lane Hudson?
Là, si je peux commencer, c'est un défenseur magnifique, là, puis écoutez, là, une souplesse, un IQ au-dessus de la norme, pour moi, c'est un défenseur impressionnant. Puis il faut le respecter, évidemment, il va devenir certainement un des grands, non, je veux pas dire un des grands, mais un des très bons défenseurs, le potentiel en tout cas, des Canadiens de Montréal, puis hâte de voir sa progression, comment on va le gérer, comment on va le faire pousser pour le garder en confiance, évidemment, puis pas le brûler, mais pour l'instant, il donne une excellente impression en tout cas, là.
Oui, complètement d'accord avec ça. Ou est-ce que présentement je l'aime bien parce que je l'ai dans un de mes poules, mais sinon, ça reste que ce défenseur, oui. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à évoluer et à prouver encore une fois, peut-être au niveau du côté défensif, mais dynamo offensif, dynamique comme ça offensivement, on n'a jamais vu quelque chose un peu de pareil, surtout pas à Montréal. Donc, c'est assez impressionnant ce qu'il réussit à accomplir. Mais quand vous parlez tantôt un peu de la comparaison entre Sanderson ou Hutton, je pense que ça se fait difficilement. C'est complètement deux styles de défenseurs différents. Donc, est-ce que Lane Hutton va rapporter un jour un trophée Norris? Je ne sais pas, mais assurément qu'il va finir parmi les top 5 meilleurs pointeurs de la Ligue nationale, probablement chez les défenseurs, pour des années à venir. Peut-être que Jake Sanderson ne le fera pas, mais va apporter complètement d'autres choses aussi à son équipe. Donc vraiment, là, c'est deux défenseurs assez exceptionnels.
OK, donc on vient de parler du défenseur numéro 1 des Sénateurs d'Ottawa. On va parler de la première joueur de centre, parce que c'est Tim Stützle, évidemment. Il y a quelques années de ça, il avait connu une saison de 39 buts, 51 passes, 90 points. L'an passé, un base de régime, 70 points. Il est à 2 points de son total de l'an passé. Donc, il est en train de rebondir. Pas que 70 points, c'était pas pire, il faut dire. Là. Je pense pas qu'il y aurait 90 points, mais on voit que Tim Stützle connaît une bonne saison, là, Nico.
Ben, pour moi, Tim Stützle, c'est... Puis quand on parle d'une baisse de régime, là, Tony, qu'on soit bien précis, là, le défi de Tim Stützle, puis c'est lui-même qui se l'était fixé, c'est de devenir un joueur de 200 pieds. Puis je pense que l'an dernier a été une année de transition. C'est pas donné à tout le monde évidemment, là, plus concentré sur l'offensive, veut peaufiner son jeu à la défensive. Des fois, il y a des manquements dans ce qui est sa nature propre. Je pense que l'an dernier, ça a été plus ardu parce qu'il travaillait justement sur son jeu défensif. Cette année, ben, je pense que c'est l'éclosion de ce joueur de 200 pieds-là. La confiance est revenue, puis se casse moins la tête. Alors, futur 100 points, certainement. Puis pour l'instant, ben ce qu'on voit, c'est que oui, peut-être pour ton expression rebondir, mais pour moi, c'est juste un point d'ascension normal, alors qu'il a évidemment là, eu de la difficulté à peut-être justement travailler sur sa défensive. Mais là, pour l'instant, on peut parler vraiment d'un joueur plus complet. Là.
Il jouait blessé aussi l'an dernier.
Ouais.
Une blessure à un poignet aussi qui l'a passablement ralenti, surtout en fin de saison. Donc ça, c'est pas à négliger. Souvent, il était quand même dans l'alignement soir après soir, mais jouait blessé aussi à minuser. Donc ça peut avoir un lien aussi avec sa production offensive.
Messieurs, on va commencer avec toi, Nico. Travis Green, qu'est-ce qu'il a su amener à cette équipe-là qui manquait dans les dernières années? Est-ce que c'est-tu Travis Green? C'est-tu une question de timing que les joueurs sont à un âge qu'ils étaient prêts à prendre leur envolée? C'est parce qu'ils ont fait des transactions? Tu sais, parle-moi de Travis Green. Cette équipe-là des Sénateurs cette saison, à quel point il est différent des autres équipes des Sénateurs dans les dernières années? Qu'est-ce qu'il a fait avec cette équipe-là?
Ben écoute, pour ce qui est de Travis Green, je pense qu'il est arrivé à un bon moment. C'est un amalgame de bien des facteurs qui fait en sorte qu'on a du succès. Mais pour répondre à la question initialement, je te dirais que la culture, il a amené cette équipe-là, cette équipe-là à un autre niveau. Je veux dire, on parlait d'un certain moment donné d'un country club dans ce club-là, il n'y a pas si longtemps. On a changé un peu... je veux dire, les façons de faire, puis la façon d'entreprendre une saison, puis c'est pas donné à tout le monde, encore une fois, d'arriver à point en Ligue nationale de hockey. Quand t'arrives si jeune, ben tu grandis un peu et tu deviens un adulte dans un environnement Ligue nationale de hockey. Alors, c'est sûr qu'il y a eu des difficultés, mais Travis Green, pour moi, est arrivé au bon moment parce que ça pourrait amener cette équipe-là à l'autre niveau. Au niveau de la maturité, ce qui a changé, ben une équipe qui gère beaucoup mieux ses émotions, une équipe qui est beaucoup plus concentrée sur l'aspect des systèmes défensifs, une équipe beaucoup plus complète à ce niveau-là. Puis écoutez, je pense que le noyau de leader a bien grandi, a bien poussé, bien appuyé également par de nouveaux venus, de nouveaux vétérans qui ont gagné la Coupe Stanley, qui sont passés par là, qui a eu des hauts et des bas. Puis en ce moment, ben l'équipe qui demeure très terre à terre, malgré le fait qu'elle est en ce moment à la porte des séries. Alors, il y a un niveau d'excitation, mais il y a un niveau également qui ramène tout le monde à la terre, ben sur la terre ferme, pour leur dire on n'a pas fini la job. Faut se concentrer puis bien mener. Un bon leader, Travis Green, un gars, encore une fois, qui comme joueur est passé par là. Alors, sérieusement, là, je pense que cette équipe-là arrive à point au bon moment. Puis Travis Green, au moment où on se parle, tout comme Martin Saint-Louis avec les performances de leur club, je dois les mettre candidats potentiels pour le trophée Jack Adams. Je ne sais pas si tu vois les
Oui, je pense.
Ben c'est certain. Ouais, c'est certain que moi aussi, je suis un peu d'accord avec Nicolas aussi, que là-dessus, que Travis Green a apporté une identité. Je pense que c'est ça aussi, au-delà de tout ça, apporter une identité. Les petits détails sont très importants, surtout défensivement. C'est une équipe qui devient très difficile à jouer contre. Puis depuis le retour de la pause des Quatre Nations, Brady Tkachuk avait dit, il nous reste à peu près 25 matchs certes. Puis c'est de ce style de jeu-là qu'ils jouent présentement les Sénateurs. Tellement difficile, tellement physique aussi. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui a apporté aussi. Ça a été long avant de voir un peu les résultats. On a eu quelques séquences de victoires, mais là, vraiment, dernièrement, on sait vraiment que c'est l'équipe de Travis Green. Il a mis son étampe. Les joueurs ont acheté le système. Puis ça fait une équipe très, très dangereuse. Puis présentement, elle est pratiquement inarrêtable.
Nico, on vient de parler de Dylan Cousins puis cette transaction-là qui l'a amené à Ottawa, retour de Josh Norris. Mais il n'y en a pas beaucoup qui parlent de Fabian Söderlund. Lui, il amène quoi à cette équipe-là?
Ben, il va amener un punch offensif additionnel. Le problème avec Söderlund en ce moment, c'est parce que tes deux premiers trios fonctionnent. Puis moi, je le voyais possiblement à la place de Perron. Mais Perron, lui aussi, complète bien là, le deuxième trio avec Söderlund. Je pense que c'est un gars qui est passé un peu sous le radar. Pas sûr que c'est les 31 autres formations de la Ligue qui savaient un qui était sur le marché, mais c'est d'ores et déjà évident. Dextérité, bonne intelligence, offensive, puis probablement beaucoup de papier sablé également. Il est fait comme un tronc d'arbre. Alors, hâte de le voir, pouvant évoluer dans des minutes de qualité, mais pour l'instant, un peu victime des succès. Mais ce n'est pas loin le jour où on va le voir sur le top 6, certainement.
Zach, il y a environ un an ou deux, là, on regardait les Sénateurs, puis ils rataient les séries, puis on parlait de leur déboire, puis on disait, mais dans quelle direction ils veulent y aller? Là? T'sais, ils ont des jeunes joueurs, mais là, ils sont allés chercher des vétérans, puis t'sais, on attendait, là, me semble que c'est Jacques Martin qui disait à un moment donné, là, l'équipe a besoin de plus de vétérans. Il y en a des partisans qui disaient, non, on n'a pas besoin d'amener des vétérans, qu'on continue avec les jeunes. Finalement, on voit que la mix entre des jeunes et quelques vétérans comme Claude Giroux, comme David Perron, ça porte fruit.
Ouais, exactement. Puis je pense que la clé de tout ça, c'est de bien les choisir. C'est de bien les choisir, choisir les bons vétérans. Puis je pense qu'à Montréal, un peu, on a pris la décision lors de la dernière date limite des transactions. C'était ça, de garder certains vétérans, garder un David Savard pas trop loin. Je pense que c'est important, ça aussi, de garder, d'avoir des bons vétérans à des positions clés qui sont capables d'apporter un rôle, qui sont capables d'accepter leur rôle, capables d'élever les autres puis d'avoir une certaine influence sur la culture de l'équipe. Puis c'est ce qu'on a fait en ajoutant un David Perron, même un Nick Jensen dans une transaction. Bref, on a ajouté même un Nick Cousins qui, malheureusement, présentement est blessé. Mais c'est un joueur qui était quand même très important pour cette équipe-là. Il apportait, encore une fois, du papier sablé, mais c'est quand même un gars qui a remporté les Coupes Stanley, qui a de l'expérience aussi. Donc, vraiment, on a réussi à bien entourer ce noyau-là de jeunes qu'on a réussi à développer. Puis présentement, ben écoute, on récolte finalement les fruits des efforts parce que ça a été long, ça a été pénible, mais finalement, on semble voir enfin la lumière au bout du tunnel à Ottawa.
Nico, on parlait de la victoire des Canadiens face aux Sénateurs d'Ottawa le 22 février, là, il y a quelques semaines de ça. Évidemment, Brady Tkachuk, encore une fois, ne jouait pas dans ce match-là, mais qu'est-ce que les Canadiens ont fait durant ce match-là qui a causé autant de difficultés, un, aux Sénateurs, et pourquoi il marque, selon toi, il y a des difficultés contre les Canadiens?
Ben, je pense que pour les Canadiens dans ce match-là, ils ont été beaucoup plus opportunistes. Le fait qu'on manquait justement un Brady Tkachuk, ça a enlevé un peu de piquant puis un peu de, je veux dire, de physicalité aux Sénateurs. Puis en plus, avec ton leader qui manque, je pense que ça pourrait être un match fort différent pour le match d'aujourd'hui. Tu as parlé de Slafkovski avant de nous parler tantôt. Slafkovski a été pas mal tannant dans cette soirée-là. Puis hâte de voir justement un Slafkovski pouvoir se mesurer à un gars qu'il veut copier en tant que joueur dans la Ligue nationale de hockey. C'est un match baromètre. personnellement, pour Slafkovský, s'il veut se mesurer au meilleur, là, ben, en voulant un des meilleurs pour ce soir. Mais ce que je veux voir pour les Canadiens, pas pour les Canadiens, mais pour les Sénateurs ce soir, une équipe qui va être beaucoup plus hargneuse en début de rencontre. Il me semble qu'on a laissé un petit peu plus le Canadien là, prendre, je veux dire, le momentum. Alors, j'aimerais ça voir les Sénateurs peut-être s'imposer un petit peu plus là, en début de rencontre. Mais les... l'énergie qui va être déployée, parce que j'imagine que si les Sénateurs vont être déjà en mode série ce soir, ça sera le match de la saison pour le Canadien. Alors certainement, le septième joueur avec l'énergie de la foule va être là certainement pour les aider.
Yeah, big time. I think it's probably our least favorite team, I would say, for sure. Obviously, Boston has the history, but I think now the new age is us in the sense, yeah, for sure. They had a big part in that, for sure. It kind of made my ground against them and did some big things against them. So.
Ouais, on peut dire, tu sais, c'est évidemment, on est tellement proche de eux, on est seulement une heure et demie de route. Quand on va là-bas aussi, on va partir d'un voyage beaucoup. Donc, c'est une équipe qu'on affronte tellement souvent aussi. On joue plusieurs matchs contre eux en pré-saison, après ça dans la saison, tout le temps quatre matchs aussi. Puis, c'est une équipe qui se bat pour les séries, puis nous aussi. Puis, c'est sûr que ça va être un match intense d'après moi.
OK, donc ça, c'est Herbert Jacquet. L'autre, c'est Montembeau qui parle tellement vite que je comprends plus rien. Mais anyway, si c'est correct, là, ça, c'est une autre histoire pour une autre journée, là. On parle de la rivalité canadien contre les Sénateurs. Tu sais, les deux équipes, les deux organisations se sont affrontées à quelques reprises dans les dernières 10-15 ans dans les séries éliminatoires. Je parlais avec Alex justement, c'est là que c'est les Sénateurs le rival du Canadien en ce moment. Là, et puis je pense que ça va être comme ça, messieurs, pendant peut-être les prochains 5 à 10 ans. Qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que les partisans de hockey, les fans de hockey disent à Ottawa? Est-ce qu'ils sentent cette rivalité-là avec le Canadien aussi?
Ben, je pense que oui, je pense qu'il la sent. Je pense qu'il y a aussi une certaine rivalité avec Toronto, évidemment, avec la fameuse bataille de l'Ontario. Mais je pense que, comme vous avez souvent dit, ils ont grandi un peu ensemble. Ils ont fait un peu parmi certaines étapes, surtout dans les dernières années, où est-ce qu'ils se sont améliorés ensemble, ont pris du galon un peu. Les Sénateurs l'ont peut-être pris un peu moins rapidement, où est-ce qu'on s'attendait à ce qu'il soit à une autre étape plus rapidement. Mais présentement, on le sent la rivalité. Puis je pense qu'il y a aussi le fait que le certain Brady Tkachuk, peut-être pas été repêché par les Canadiens lorsqu'il avait l'opportunité, ça a toujours un peu eu la faveur des partisans, ou en tout cas le désarroi de certains partisans, puis qui a allumé un peu les foules. Puis Brady Tkachuk, c'est pas un joueur qui est plaisant à jouer contre. Puis là, on a Herbert Jacquet du côté des Canadiens. Donc, je pense qu'il y a une rivalité qui est en train de revenir. Parce que moi, je m'en souviens quand j'étais plus jeune, encore au secondaire même, lorsqu'on se rappelle du fameux Pajot à Ottawa. Nicolas s'en souvient assurément. Lorsqu'il avait marqué plusieurs buts contre les Canadiens en série, il avait toujours un don d'aller hanter les Canadiens en séries éliminatoires. Donc, vraiment, on sentait qu'il y avait quelque chose, une rivalité. Peut-être qu'il s'est perdu au cours des dernières années, mais vraiment récemment, on sent qu'il est renouvelé. Puis surtout cette année, comme je dis, avec certains peut-être commentaires d'un Slafkovský qui veut modeler Brady Tkachuk, un Jacquet qui veut peut-être challenger un joueur comme Tkachuk au niveau des combats. Bref, je pense qu'il y a une certaine énergie, une certaine enthousiasme. Puis ce soir, je m'attends à ce que ça soit tout un duel, puis qui va peut-être mettre la table pour les prochaines années.
Malheureusement, on a eu quelques problèmes techniques sur la page YouTube. Le son coupait, puis il y a des bouts qu'on manquait. Là, on me dit que ça devait être replacé, en tout cas, je l'espère. Vous devez juste, au lieu de quitter la page, rester sur la page et rafraîchissez votre page, et ça devrait bien aller. Tu disais, Nico?
Ben, j'allais dire que... c'est sûr que pour ce qui est de la rivalité, c'était dur d'en avoir une au cours des années précédentes quand les Sénateurs ne faisaient que varloper le Canadien. Alors là, maintenant que ça a aidé, là, c'est une petite bine, inquiétez-vous pas, je vais juste mettre le vide sur le feu. Ce que j'allais dire, c'est que là, maintenant, je pense que les planètes sont alignées pour voir justement ces deux équipes-là pousser dans le même sens pendant plusieurs années. Tu parlais d'un de tes auditeurs qui rêvait tout haut. Moi, je rêve à cette séquence de participation consécutive en série, puis où le Canadien et le Sénateur vont s'affronter. Un peu comme on l'a vécu au début des années 2000 avec les Maple Leafs de Toronto. Si on est capable d'atteindre ce genre, justement, de récurrence-là, on aura certainement là de plusieurs années à se parler d'une grande rivalité. Mais je pense que pour l'instant, là, c'est le genre de match comme ça, et s'il fallait qu'on ait deux équipes qui participent aux séries comme ça, je pense que ça ne ferait qu'amplifier. On la sent l'excitation, on sent que c'est en ce moment le rival qu'on veut battre, alors autant Jack Eye d'un côté, je suis sûr aussi, si tu parles aux joueurs des Sénateurs, on veut tous battre les Canadiens sur leur aréna, ben, sur leur patinoire ce soir.
On entend Renaud Lavoie qui était avec les gars dans le club du matin, plus tôt ce matin, et il parle de peut-être une stratégie pour le Canadien ce soir, on l'écoute.
Si tu touches à cet outil-là, tu fais perdre la tête du reste de l'équipe.
C'est sûr.
Et si les Blancs sont pas contents, puis là, ils oublient de jouer le match, qui gagne encore?
Absolument.
Encore le Canadien.
Moi, je pense que la première période est extrêmement importante. Tout cela, là, on va s'assurer que Brandon y parle, parce que Brandon, il aime bien ça y parler. On va s'assurer de finir nos mises en échec. S'assurer que quand il y a la rondelle, faut pas qu'il y ait la tête basse une fraction de seconde. Bang, on rentre dedans.
Ouais.
On n'hésite jamais de le faire. Je vais te dire une chose. Là, le match peut revirer d'une autre façon parce que les joueurs des Sénateurs, là, cet outil-là, c'est, tu sais, je comprends, c'est un joueur exceptionnel, de grande qualité. Mais tu sais, c'est un gars aussi qui attire l'attention sur une glace, puis on veut le protéger, puis pendant que tu fais ça, souvent tu oublies de jouer, ce qui est le plus important, la game, de trouver une façon de marquer des buts.
Messieurs, je vais commencer avec toi, Zach. Est-ce que tu penses que le Canadien peut essayer de jouer dans la tête de Stutzla?
Je pense qu'ils n'auront pas le choix, puis je pense que c'est une bonne façon de faire aussi. Je suis pas contre assurément les propos. Est-ce que ça va fonctionner? Peut-être, mais je pense pas nécessairement que Tim Stutzla, si on réussit à le déconcentrer, c'est une défaite automatique pour les Sénateurs. Je pense qu'on est rendu avec plus d'armes, plus d'éléments. Dans les dernières années, il était peut-être le seul moteur offensif de cette équipe-là. Mais là, présentement, on a un top 6 qui produit très bien, qui joue très bien présentement. On a de la bonne profondeur. Donc, est-ce que assurément le plan de match des Canadiens, c'est de déranger les meilleurs joueurs adverses? Absolument. Puis on sait que Tim Stutzla, peut-être justement, a pas eu la faveur de certains partisans en raison qu'on l'accuse de plonger beaucoup un peu, puis tout ça. Fait que je pense qu'il y a certains côtés comme ça, mais je pense que c'est pas simplement une relation cause à effet de si on réussit à le déranger, on va gagner automatiquement, mais assurément que les Canadiens, s'ils veulent espérer pouvoir remporter ce match-là, on doit se jouer dans la tête. Puis je pense que d'un côté comme de l'autre, la première période va être tellement importante parce que si les Canadiens réussissent à prendre les devants rapidement, avoir la foule de leur côté, ça va être difficile de revenir pour les Sénateurs. Et l'inverse est aussi vrai. Si on est capable de faire taire la foule dès le départ, imposer son style de jeu pour les Sénateurs, ben écoute, on pourrait se diriger vers une 7e victoire consécutive.
Nico, quand Tim Stutzla est rentré dans les à l'âge de 18 ans, évidemment, on pouvait le déstabiliser. Il manquait d'expérience, c'est normal. Il est jeune, c'est un recrue. Au fil des ans, là, on regarde au niveau de la maturité. Est-ce que tu penses qu'après 5 ans dans la Ligue nationale puis la maturité qu'il y a acquis maintenant, 23 ans, ils peuvent encore rentrer dans sa tête?
Il y a toujours une façon de rentrer dans la tête d'un joueur, mais encore une fois, c'est la maturité qui prend le dessus. Alors, on est capable de gérer un petit peu plus nos émotions, puis on garde la tête au bon endroit. Mais si on est en voie de s'attendre à avoir un Stutzla qu'on va tenter de déranger du côté du Canadien, ben on a quand même des armes pour déranger les meilleurs éléments adverses. Du côté des Sénateurs, là, je vous invite à regarder un 3, puis surtout un Ridly Gregg qui devient une peste qu'on va détester à travers la Ligue, mais qu'on va adorer ici à Ottawa. Non, je pense que Stutzla est capable de bien réagir, puis je pense qu'on est capable de bien l'entourer. J'aime Renaud, sa perspective, puis j'aime son plan de match, mais comme j'ai dit, si vous êtes capable de jouer de cette façon-là, je pense que les éléments qu'on a sur la glace pour les Sénateurs, on est capable de répliquer de cette même façon-là aussi.
Les gars, est-ce que vous pensez que le Canadien de Montréal sont une équipe, c'est juste une équipe d'un trio? Zach?
Non, mais c'est certain que ça passe beaucoup, leur offensive passe par le premier trio, puis c'est normal. Dans l'étape où est-ce qu'ils sont rendus, c'est normal présentement quand on regarde la formation, de peut-être que l'offensive vienne plus du premier trio, mais je pense que ça va le devenir de moins en moins avec au fil du temps, au fil que les joueurs vont prendre la maturité, au fil qu'un Ivan Dimida va arriver, au fil que certains joueurs, on va greffer à cette formation-là, mais présentement, peut-être un peu plus, mais je pense qu'il y a quand même certains éléments qui peuvent apporter d'autres choses offensivement sur les autres trios. Mais actuellement, peut-être un peu plus que les Sénateurs, où est-ce qu'ils sont un peu mieux équilibrés, mais comme j'ai dit, ils ne sont peut-être pas nécessairement rendus à la même étape dans leur cycle.
Messieurs, bon match ce soir, là, match extrêmement important. Est-ce que, je demanderais aux partisans des Sénateurs s'ils voient déjà les Sénateurs en série, est-ce qu'ils diraient oui ou diraient qu'il y a encore du hockey à jouer? Là? Parce que les Sénateurs vont jouer deux matchs contre le Canadien, un ce soir, puis trois matchs contre les Blue Jackets de Columbus d'ici la fin de la saison. Nico?
Le pire ennemi des Sénateurs en ce moment, ce sont les Sénateurs. Faut pas que la chaîne débarque, mais si tu parles du marché, on n'y croit plus jamais. Ça fait des années, on est assoiffé à ce niveau-là. On veut s'abreuver à la fontaine des séries. Puis je pense que tu vas poser la question à n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde va tout vous dire. Les Sénateurs, c'est du solide maintenant. Puis on va voir évidemment si on sera capable. Si je ne me trompe pas, ça prend une fiche de 500 avec les 16 matchs qui restent. Alors, l'affaire est ketchup. On va l'espérer ce soir.
Messieurs. Exactement, c'est une place à perdre pour les Sénateurs. C'est tout ce que je dirais en terminant. Présentement, ils sont dans le siège du conducteur. C'est à eux de la perdre. Sinon, écoute, ils devraient pouvoir rentrer en série.
Zachary Mercier et Nico Saint-Pierre. Messieurs, merci beaucoup. Bon match ce soir et que la meilleure équipe gagne.
Yes, bon spectacle.
Bon match. Okay.
Salut, bon match.
Et que le Canadien gagne, la meilleure équipe. OK, let's go. Il a lancé des flèches. La rivalité est là. La rivalité est là. Hein? C'est quelque chose. Hein?
C'est bon, ça.
En tout cas, merci, messieurs. Merci beaucoup.